Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxyjeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette interview, je suis avec Peter. Salut Peter.
Salut Cyrus.
La forme?
Ouais, ça va, nickel.
Allez. Et on accueille donc cet après-midi Florent Toscano. Bonjour Florent.
Eh bien bonjour à vous.
Comment vas-tu?
Après ce que je viens de vous dire de manger, que j'ai mangé, ça va plutôt mieux.
Ça va plutôt bien. Très bien. Alors Florent, bon, t'es déjà passé plusieurs fois au micro de Proxyjeux, hein,
ouais.
Avec nos ancêtres, mais également avec moi en particulier sur une interview. Qui date un petit peu maintenant parce que c'était en 2020. On va y revenir. Donc tu es le responsable des éditions Jeux au plat.
Exactement.
Tu es le CEO des Jeux au plat.
Oui, je suis c'est ça, je suis le CEO. Depuis le début. Donc j'ai créé la boîte en 2011. Donc voilà, ça fait 15 ans en effet.
Alors on va te proposer d'abord de te soumettre au petit fil rouge. Donc quatre questions très rapides sur lesquelles on va te demander. Une petite réponse pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent un peu mieux.
Mmh.
Voilà, libre à toi de développer un petit peu si tu veux. Voilà. Alors, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu?
Très bien, c'est vrai. Portrait chinois. En fait, je devrais me préparer des réponses toutes prêtes parce que je suis tout moisi à ça. Et on nous pose toujours le truc. Je sais jamais quoi répondre en fait.
Tu attends de me dire qu'on n'est pas du tout original quoi. J'avoue qu'on commence à fatiguer les différents fils rouges.
C'était même pas dissimulé. Je suis désolé. Non, c'est plutôt moi qui suis naze en fait. J'arrivais pas à... Alors si, pardon, du coup,
une mécanique de jeu.
Ouais. J'aime tellement de mécaniques de jeux différentes. Est-ce que je serais une mécanique que j'aime bien déjà? Ça, c'est la question.
Est-ce que tu serais la salade de points? Alors du coup, un mélange de plein de trucs.
Non, je pense que je serais un truc plus une mécanique construction de tableau, un truc un peu chill. Ah, okay. Je pense différentes façons de scorer. J'imagine comme ça. Enfin.
Tableau building ou plutôt la mode qu'on voit aujourd'hui à Château Combo, les trucs comme ça, tu sais.
Non, je crois pas. Plutôt vraiment construction de tableau avec différentes façons de scorer et trucs assez maîtrisables, ou en tout cas où la part d'aléatoire est maîtrisable.
D'accord.
C'est important pour moi.
Très bien.
Très bien. Et si tu étais un thème de jeu?
Ah, bah, j'imagine que ça serait un thème qui est loin du brouhaha et plus proche du bruit du vent dans l'herbe et dans les feuilles. Oui, ça serait. C'est con de dire ça maintenant. Il y a 10 ans, c'était pas du tout à la mode. Mais aujourd'hui, c'est très marketing. Mais ça serait un thème nature, en tout cas, ouais, clairement.
Ok. Et un élément de jeu.
Un élément de jeu.
Ouais.
Ça serait certainement pas la boîte parce que j'ai aucune envie qu'on mette plein de trucs dans moi. Je sais pas. Un élément de jeu. Non, en fait, elles sont originales vos questions.
Ah.
Parce que d'habitude, c'est ta couleur, ton animal, machin. Non, c'est juste un élément de jeu. Bah, ça serait forcément une carte.
Une carte?
Ouais. Mmh.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes dans les...
Bah, moi, j'utilise beaucoup les cartes, mais un peu par contrainte. Et puis parce que je trouve que c'est magique, en fait. C'est l'épure au... En fait, on peut tout faire avec des cartes.
On peut faire beaucoup de choses, c'est vrai.
C'est vrai quand on demande des jeux sur... Nous, on fait beaucoup de jeux sur commande, sur mesure, pour des entreprises, des ONG, des assos. Et souvent, ils viennent avec un jeu qu'ils ont déjà fait. Ils disent, on a déjà commencé à bosser là-dessus. En général, c'est un Trivial Pursuit, un Monopoly, un jeu de loi. C'est systématiquement comme ça. Et la première chose, c'est que, on vire le plateau, et la plupart du temps, on se démerde pour finir avec un jeu de cartes parce que c'est moins cher à produire et puis c'est tellement infini les possibilités qu'on peut avoir avec un jeu de cartes. On peut faire un plateau avec déjà un jeu de cartes.
Mm-hmm.
Modulable. Donc voilà.
Pas de vrai Maracaibo.
Je pense qu'une carte c'est bien et en plus une carte c'est double face et je pense qu'on a tous un côté double face et je dois pas faire exception.
Et si tu étais un jeu, tout simplement.
Si j'étais un jeu, faut que je cite un jeu.
Mm-hmm.
Je sais pas. Un quarto, je crois qu'un quarto m'a vraiment marqué en fait. Parce que quand on parle d'épure, quarto était quand même vraiment, vraiment un modèle d'épure et à la fois malin, prenant. Enfin, pour moi c'est un jeu qui m'avait vraiment marqué. Alors, je sais pas pourquoi je pense à lui au début, tout de suite là comme ça, mais
ouais, pour le coup c'était spontané.
Pour le coup c'était spontané. Je pourrais citer Dixit aussi. Il y a des jeux comme ça qui ont vraiment été marquants. Alors Dixit c'est sans doute moins original parce que tout le monde doit avoir cette réponse là, mais
c'est deux jeux très opposés pour le coup parce qu'il y a pas trop d'illustrations dans.
C'est deux jeux très opposés. On a un jeu très abstrait qu'on pourrait même estimer froid et un jeu très illustré et très un jeu de communication. Mais je suis très opposé.
Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces premières réponses. Alors, je disais justement précédemment, on t'a reçu lors du Festival international des Jeux de Cannes 2020. T'étais en compagnie de Julien Protière et bah, c'était moi qui étais déjà de ce côté de la table des mixages avec Pionfesseur. C'était l'époque où vous veniez de sortir Cosmopolite et vous alliez tout juste sortir La Marche du Crabe.
Oui.
Vous alliez embaucher Fabienne Guillot.
Oui, bah, qui était embauché.
Qui était embauché. Ouais, je vois, tu nous disais que c'était vraiment en instance.
Oui, c'est janvier 2020. Ouais. C'est une grosse année. Enfin, c'est une année vraiment particulière 2020 pour nous.
Ouais. Qui est toujours chez vous, du coup, Fabienne?
Et Fabienne est toujours chez nous.
Ouais.
Elle est en balle.
Alors, vous nous racontiez à l'époque que vous produisiez vos jeux uniquement en France. Hein.
Ouais, à l'époque, c'était le cas.
J'aime
bien dire qu'à l'époque c'était le cas, mais il faut que j'arrête de dire ça. Ça devient éculé parce que j'ai la même blague tout le temps. Jusque-là, on fabriquait 100% en France et maintenant c'est 100% Auvergne-Rhône-Alpes.
Et oui, voilà.
Ah, d'accord. Oui.
Non, non, mais il spoil la suite.
Je vais arrêter de faire cette blague parce que là, ça fait 30 fois qu'ils l'entendent en fait.
Ah oui, bah il y a des gens qui s'attendent à autre chose, du coup, forcément dit comme ça. Et on parlait de partenariat avec d'autres éditeurs et tu nous expliquais que pour déployer à l'international, vous aviez des exigences hein, qui étaient que le lieu de production soit dans le pays, en tout cas où j'imagine très proche hein, du pays d'implantation, et que du coup ça va vous fermer un peu des portes forcément quoi.
Oui.
Je te propose peut-être de revenir déjà sur ce premier point. Est-ce que vous avez réussi à développer des partenariats à l'étranger là depuis 2020 sur certains de vos jeux?
Alors on en avait plus avant en vrai.
Ah oui.
Y a des jeux qu'on a bien localisés à l'étranger comme le Bois des Quatsu,
ouais.
Qui est celui qu'on a le plus dans une dizaine de pays en fait. Et ça a été moins le cas après. Cosmopolite par exemple qui est sorti en 2020 pour le coup.
Ouais.
Lui n'a été localisé qu'en Allemagne et au Japon et en Russie. Là, ils sont en Russie, là, d'ailleurs, dans un mois, je
bientôt.
Crois. Enfin, oui, tout près, là. Mais on a très peu de jeux, en fait, qui sont localisés. Ça fait partie des endroits sur lesquels on agit, là.
D'accord.
Depuis un an et demi. Mmh. Mais c'est très compliqué parce que nous, comme tu dis, on fabrique 100% en France. Vraiment 100%. Enfin, d'une part, pour l'impact environnemental, tout simplement, et puis pour la pertinence économique. Enfin, plus de sens. Cette vertu environnementale et cette pertinence économique, elle est valable dans tous les pays, je trouve. Donc, du coup, je trouve ça. Enfin, ça aurait pas de sens de fabriquer localement pour ces raisons-là, si c'était pour exporter, en fait, de façon lointaine. Donc, on s'autorise l'export dans un rayon, grosso modo, de 1000 km autour de chez nous, donc autour
d'accord.
de Lyon. Donc, en gros, la périphérie très large autour de la France.
Donc, ce qui fait que vous distribuez, par exemple, en Belgique, en Suisse,
voilà.
Je crois.
Belgique, Suisse, là, on va essayer de... Enfin, en tout cas, on envoie en Belgique, en Suisse, en Allemagne, un petit peu. Mais la plupart des gens en Allemagne sont fabriqués en Allemagne. Enfin, nous, à nous, en tout cas. C'est Our qui les localise en Allemagne. Là, on va commencer à Espagne, on espère le Portugal. Enfin, voilà. Ça, c'est les envois qu'on fait. Mais quand c'est plus loin, en effet, il faut que ça soit fabriqué dans le pays dans lequel c'est vendu. Ou en effet pas loin, quand c'est des tout petits pays. Enfin voilà, faut pas être non plus trop strict, parce que le coût du pays dans lequel c'est vendu, ça a pas de sens pour un pays comme la Russie, comme le Canada, comme les États-Unis, quand tu vois la taille du pays, qui sont grands comme notre continent à nous.
Ça veut dire que le contrat que vous passez avec le localisateur impose la production du jeu dans le pays du localisateur.
Oui, après c'est au cas par cas. Par exemple, pour Cosmopolite au Japon, c'était pas possible au Japon parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Donc ça a été dans une usine en Chine, mais une usine qui était vraiment sur la côte est de la Chine, qui était la plus proche possible du Japon. C'est toujours des micro-compromis comme ça.
Pour l'exemple, ça fait quoi comme rayon du coup
Je sais pas.
Je sais pas mesurer.
Ouais.
Non,
je pourrais.
D'accord.
Pourtant, c'est le genre de truc que je fais beaucoup, des rayons comme ça. Ça veut pas dire grand-chose. Ce qui m'a permis de me rendre compte que, avec parenthèse inutile, ce sont pas des vrais cercles du coup hein, quand on fait les rayons. Du coup, on l'a fait sur une vraie planisphère en fait.
En fait,
c'est des œufs.
Oui.
Au final, mais bon. Donc ça pour dire voilà, c'est un point sur lequel on essaye d'agir, mais on est une petite équipe. Notre indépendance fait qu'on fait tout du début à la fin. Ouais. Donc c'est l'export, la localisation prend du temps. Donc ça c'est long à se mettre en place.
Vous étiez distribué par Paille Édition, il me semble, à un moment. C'était mais ils se sont arrêtés en quelle année?
C'est pour ça que je dis que 2020 c'était quand même une année vraiment très particulière, parce que c'est l'année où Paille, en fait, le 6 janvier, Paille m'a appris qu'ils arrêtaient la distribution, qu'ils arrêtaient la boîte. Donc Paille distribuait Dixit à l'époque. Hein. Mmh. C'était quand même un gros morceau pour eux. Et nous, c'est l'année où Cosmopolite est arrivé. Et donc ils arrêtaient. Moi, l'indépendance me titillait depuis un moment. J'ai eu la chance, mon ego a eu la chance que tous les distributeurs nous ont demandé. Donc ça, oui. Ça a été cool. Mmh. J'ai refusé tous les distributeurs parce que j'avais vraiment une envie d'indépendance, en fait, envie de mesurer, de maîtriser notre sujet du début à la fin, en fait. J'ai beaucoup critiqué Paille. Parce que les volumes n'étaient pas suffisants, parce que j'estimais que la com n'était pas suffisante, parce que c'est de bon ton de critiquer son distributeur, parce que c'est toujours la faute de l'autre. Et en fait, j'en avais marre de les critiquer en sachant que c'est toujours plus vert ailleurs, en fait.
T'as tenté l'expérience par toi-même.
J'ai envie que ce soit de ma faute, en fait. Que si ça foire, je m'en prenne à moi-même.
Ouais.
Mais pas que. C'est toujours.
Dépendant d'une certaine façon,
ouais.
Aussi, quoi.
Mais en fait, on a calculé quand même le truc, on a estimé le truc, on a beaucoup discuté avec les boutiques, énormément, avant de prendre la décision et puis de se monter en indépendance. Et puis voilà, donc Fabien en effet a été embauché. Moi j'étais tout seul jusque-là. Fabien a commencé en tout début janvier 2020. Dixit est sorti en tout début janvier 2020. Il y a eu le Covid. Et nous, notre indépendance de distribution a commencé en 1er juillet 2020, pour le coup.
Okay.
Et depuis,
alors du coup, ça veut dire quoi? Entre janvier et juillet, il n'y a pas de distribution
c'était
pas, de
si,
jeux
si, c'était pas. Paille s'est arrêté le 30 juin 2020.
Ah voilà, ouais, c'est ça, c'était
et
l'annonce qui était
c'est
en
le temps,
janvier.
Nous,
ouais.
C'est le temps de se mettre en place et de construire la distribution, parce que c'est un nouveau métier finalement. Il y a eu un accord, alors j'ai dit non partout, il n'y a eu qu'un accord avec BlackRock. Qui nous distribue en GSS uniquement.
D'accord.
Okay. Ça c'était un accord depuis
GSS, c'est les Cultura,
donc c'est grandes
surfaces
grandes surfaces spécialisées, donc Fnac, Cultura, Grande Récré, voilà toutes les grandes enseignes. BlackRock, c'est une boîte que je connais, qui est pas très loin de moi d'où je viens, et je les connais depuis très longtemps. Enfin, les historiques, en tout cas, je les connais depuis très longtemps. C'est des gens que j'aime beaucoup. Donc du coup, c'était assez naturel pour moi d'aller chez BlackRock. Avant que BlackRock devienne ce que c'est devenu aujourd'hui, qui est devenu quand même une boîte incroyable. Et là, on a récupéré l'an dernier les GSS franchisés, donc du coup les Jouets Club, les Espaces Culturels Leclerc, c'est de nouveau par nous directement, et BlackRock n'a plus que les non franchisés, donc les en gros Fnac et Cultura.
D'accord, ok.
Mais j'aime vraiment l'idée. Après, les GSS, c'est un autre métier, en fait. C'est un autre monde, en fait. Je sais pas, les GSS représentent pas loin de 50%, je crois, du chiffre d'affaires des éditeurs, des distributeurs. Nous, c'est 5 ou 10%, même pas. Et par contre, là où les boutiques SP chez les autres représentent, je crois que c'est 16% aujourd'hui, l'ensemble des boutiques SP en France.
Ah oui.
Nous, on est plus autour de 50-60% pour les boutiques SP.
Ça a quand même bien changé. Hein. J'avais pas du tout ce genre de chiffre en tête, moi.
Ah oui, c'est hallucinant. Oui, ouais. Quand tu vois qu'Amazon, quand tu vois que c'est pas loin de 20%,
ouais.
C'est que l'ensemble des jeux vendus en France, enfin sur l'ensemble des jeux vendus en France, il y en a 1/5 qui est vendu par Amazon, quoi, en fait.
Oui, incroyable.
C'est dingue.
Ah ouais.
C'est dingue. Nous qui ne vendons pas à Amazon, on sait que voilà, c'est 20%, c'est pas rien 20%. Donc c'est 20% sur lesquels on peut pas compter, quoi.
Et vous vendez pas, c'est par choix, hein, c'est ça?
Ah bah oui, Amazon, ouais. Pour moi c'est le mal absolu, en fait.
Ouais. C'est pire que le Black Friday ou?
C'est la même chose, en fait. C'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes.
Parce que je crois que vous communiquez sur votre site internet là-dessus.
Oui,
là-dessus, hein, c'est
oui.
Ça.
Chaque année, bah en fait, poussé à la consommation. Alors c'est très. Étrange de dire ça, parce qu'on a besoin que les jeux se vendent. Nous, il faut que les jeux se vendent énormément. Et en même temps, j'ai pas envie que les gens surconsomment et achètent les jeux parce qu'ils ont besoin d'acheter, parce que c'est en promo, parce que machin. Et puis ce que je déteste dans les Black Friday, c'est surtout l'habitude qu'on donne à l'humain de dévaloriser. C'est-à-dire que les objets, même un objet ludique, en l'occurrence comme le jeu, culturel comme le jeu, va plus avoir un prix qu'une valeur. Et j'aime pas du tout cette idée qu'en fait un jour comme ça, on va déprécier la valeur de l'objet, c'est-à-dire déprécier la valeur de tous les gens qui l'ont fait. Et ça a pas de sens, en fait. Cet objet a la même valeur. Je parle pas du prix, hein, je parle de la valeur.
Ouais.
Il a la même, quels que soient les jours. Et en l'occurrence, j'aime bien que la valeur soit signifiée par le prix. Donc non, c'est vrai que nous le jour du Black Friday, on vend 30% plus cher sur notre site, par exemple. Et il y a des gens qui nous commandent des jeux parce que c'est 30% plus cher. Par
ah
soutien,
ouais.
par idéologie, par.
D'accord, okay.
On avait fait un test avec Terre de Jeux à Rennes il y a quelques années aussi, où pour deux jeux, La Marche du Crabe et Cosmopolite, je crois, si je me trompe pas, où il y avait deux piles en fait, une pile du jeu au prix normal et une pile du jeu au prix plus 20%, et avec une petite, on a fait un petit écriteau, vous payez 3 euros de plus, mais ces 3 euros sont exclusivement reversés en plus à l'auteur et à l'illustrateur du jeu.
Ah ouais.
Et ben en fait, y a la plupart des gens, alors faudrait revoir les chiffres, je me rappelle plus, mais il y a quand même, c'est impressionnant le nombre de gens qui sont, quand on leur explique en fait, quand ils voient le truc, ben ils mettent plus cher en fait. Ils sont prêts à mettre plus cher quand ils savent que ça va pour l'auteur et l'illustrateur en plus. Il y a toute une éducation à faire en fait par rapport à la valeur de tout ce qu'on a en fait.
La valeur des choses et où va l'argent. Quoi.
Donc oui, bref, Amazon, oui pour moi ça me, ce truc de la consommation ultime immédiate en plus facile, sans conseil, sans rien, c'est hyper monopole en plus, abusant des paradis fiscaux. Enfin, c'est un peu la totale. Hein.
C'est le bingo quoi.
C'est quand l'éthique rencontre l'économie. C'est un petit peu ça, la philosophie.
Là, l'éthique est un peu mise à mal en ce moment. Oui, j'ai l'impression que ces 10 dernières années, il y avait eu des petites avancées. Enfin, je sentais un truc un peu mieux en fait dans les discours, dans les médias, mais pas qu'au niveau éthique. Enfin, l'éthique au sens large en fait, même d'un point de vue des libertés au niveau de des droits des femmes. On a vu ce qui s'est passé les printemps arabes. On a vu l'environnement qui était quand même, qui avait un petit peu plus droit à la parole, et là j'ai eu l'impression vraiment qu'en un an et demi, deux ans, tout s'est effondré. Non seulement ça s'est effondré, mais c'est un recul en arrière.
Oui, oui.
Quoi, ça. Impressionnant, et que le monde du jeu en fait c'est triste, ça m'attriste de dire ça, mais ça fonce dedans, mais complètement quoi en fait.
Ça suit le mouvement quoi.
Oui, c'est affolant en fait. Mais c'est gay, hein, c'est chouette, vous êtes content. j'ai une bonnette noire aussi, les votes sont colorés, c'est peut-être pour ça.
Coïncidence. Alors on voulait revenir avec toi aussi sur les sorties qui ont eu lieu, les sorties de jeux depuis 2020. On les a listées un petit peu, hein, même si il y en a pas beaucoup, donc je pense que ça sera pas une grosse béquille pour toi. Hein, je pense que tu aurais pu les sortir tout seul.
Oui, je pense que je peux arriver à les dire. Je peux le faire, tiens d'ailleurs, on va voir. Non, je pense qu'en janvier 2020, on a eu Cosmopolite, qui pour nous a été avant qu'il sorte, c'était magique. L'aventure Cosmopolite a été une vraie aventure extraordinaire en fait, à créer avec le Labo de Langue, avec Julien Protière, Stéphane Escapa, enfin c'était un truc foufou. J'en profite pour dire que c'est pas fini cette aventure Cosmopolite, puisque en novembre là, il y a quelques mois, le 25 novembre, on a tous été à Paris à la cérémonie de remise de la médaille d'or du CNRS, puisque Cosmopolite a eu la médaille de la médiation scientifique du CNRS.
Ok.
Ce qui était génial pour nous, c'est exactement ce qu'on veut en fait. C'est le sens qu'on met dans les jeux. L'idée, c'est que ça soit hors du milieu du jeu en fait, c'est que ça amène ce genre de choses. Donc l'aventure Cosmopolite continue. Nous, c'est un jeu qu'on continue à vendre plutôt bien, voire très bien. Et puis on a vu que c'était un jeu qui avait marqué les joueurs, pour le coup, qui a eu une aura particulière. Et je pense qu'il n'y a pas trouvé encore son... Il n'y a pas eu de... Mais c'est du fait de l'âme qu'il y a derrière, en fait. Je pense que les 4 ans de développement qu'on a mis avec le labo et avec les autres auteurs font que ce jeu a un truc particulier.
Il est singulier.
Et nous, ça a été un vrai changement. Donc ça, voilà. En plus, c'était l'année charnière de l'indépendance de la distribution. En août, il y a eu la Marche du Crabe, qui a été de nouveau un hit pour nous. Hein. On a eu de la chance d'avoir coup sur coup un hit, deux hits. Et même trois, puisque du coup en 2021, la gamme des cartes Zul, qui est sortie en août, je dirais aussi, septembre peut-être, avec une gamme donc très particulière, qui a très très bien démarré, on en a sorti trois de plus l'année d'après ou deux ans après, en 2022, je sais plus. Et on s'est rendu compte aussi qu'en sortant, donc ça en fait neuf en tout, parce qu'on a eu six au début et neuf et trois autres après. Mais on s'est rendu compte qu'on s'est un peu, on a été un peu ambitieux, un peu gourmand, et un peu trop prétentieux, ouais, okay. dans l'objet.
C'est-à-dire, vous avez voulu ressortir trop d'un coup
Non, on a voulu trop en mettre, en communiquant probablement mal sur un objet qui est un peu bâtard en fait, donc dur à appréhender pour le joueur et pour le kidam.
Basé sur des cartes. Avec une utilisation très particulière des cartes.
C'est un puzzle en fait, mais avec des cartes que tu superposes les unes sur les autres, et le fait que ce soit des cartes qu'on superpose, ça permet. Je fais le geste là, c'est complètement con parce que je suis à la radio, mais le fait de superposer dans, ça permet de faire l'image, mais ça permet surtout de la refaire d'une façon presque infinie de fois différente selon l'ordre dans lequel on superpose les cartes, parce que du coup on a fait plein de modifications, et ça permet d'avoir plein de défis à réaliser. Et ça par contre, ça a été très mal compris. le côté hyper rejouable avec des défis, des côtés casse-tête et des certains qui sont narratifs, certains qui sont voilà, ça a été mal compris parce qu'on l'a mal expliqué sur les boîtes, on l'a probablement mal expliqué aux revendeurs. Et donc là, il y en a un prochain qui sort bientôt qui s'appelle Dinosaur.
D'accord.
Qui est dans les tuyaux depuis très longtemps. Et puis on réfléchit à d'autres et en accompagnant ça d'une nouvelle campagne de com pour mieux expliquer, être plus pédagogique en fait sur ce qu'est cet objet bâtard, parce que c'est un objet bâtard. Et les objets qui rentrent pas dans les cases, et ben c'est compliqué d'aller vers eux, malheureusement.
J'ai une question pour toi sur Cardiole, parce que je trouve le concept vraiment incroyable. Effectivement, les idées en plus que vous avez mises dedans et tout. J'ai un reproche à lui faire, c'est que quand même faire un puzzle de cartes quand les cartes glissent, je sais pas si, enfin moi je suis un peu, je suis dans le souci du détail et tout, et donc quand les trucs ne matchent pas bien et quand ça bouge un petit peu et que ça glisse, les trucs ne matchent plus, c'est un enfer pour moi. Est-ce que vous avez réussi à travailler peut-être sur ce côté glisse des cartes, je sais pas.
Alors oui, mais dès le début, et en fait, ça, là, le taux de glisse, je sais pas comment ça se mesure, mais
ok, admettons, comme ça.
C'est celui qu'on voulait.
Ok.
Parce qu'on avait essayé, en fait, avant de lancer le jeu, là, pour le coup, c'était une vraie question. On a essayé plein de textures, de vernis, de matières différentes.
Okay. Et c'est ce qui
fait
qu'en
fait, c'est un vrai souci parce qu'en fait, sache que les cartes ont deux vernis différents. Et si tu touches tes cartes de Cardiole, tu t'en rendras compte. D'un côté, t'as un vernis acrylique, assez lisse, assez glissant, et de l'autre côté un vernis.
J'ai mémoire effectivement, je sais pas pourquoi, mais j'avais mémoire que c'était pas tout à fait pareil des deux côtés.
De l'autre côté, t'as un vernis soft touch,
okay,
qui lui est plus peau de pêche, plus accrochant. On s'est rendu compte qu'en fait, si on mettait que du peau de pêche, ça accrochait trop. Alors qu'il faut quand même qu'une légère glisse pour pouvoir justement bouger, réorienter les cartes.
Ouais,
par contre, s'il y a que de l'acrylique contre acrylique,
ça glisse trop.
Et le meilleur compromis qu'on a trouvé, et on a la chance que notre imprimeur puisse faire ça, c'est d'avoir un acrylique d'un côté et de l'autre côté du soft touch. Et du coup, c'est la combinaison des deux, donc une carte super, un soft touch sur un acrylique. Pour nous, c'était la glisse optimale et la grip optimale.
Ouais. Après, mais oui, forcément, j'ai pas essayé le double grip, donc je peux
mais
pas.
Mais ça bouge, mais ça fait partie du jeu. Pour nous, c'est vraiment moi qui suis assez maniaque dans ce genre de truc, c'est vrai que je suis extrêmement méticuleux quand je le fais. Je suis.
C'était le terme que je cherchais, maniaque, c'est ça. C'est
ludo maniaque
aussi. Ok, ouais. Donc c'est une gamme qui a bien marché, mais
qui s'est essoufflée aussi, parce qu'on n'a pas su en sortir suffisamment régulièrement, parce que c'est vraiment du boulot en fait, hein, de développer des cartes. Et puis parce qu'on a mal communiqué, donc là on va essayer de relancer la machine.
Okay.
Mais du coup 2020, 2021, 2022, c'est vrai que coup sur coup, on a eu, enfin 2020, 2021, coup sur coup, on a eu trois jeux qui se sont vraiment très très bien vendus, et donc on avait deux trois années vraiment magiques en fait, extrêmement bonnes, ce qui ont probablement été le point de départ de la dégringolade, parce qu'on s'attend pas à ce que d'un seul coup ça
continue
pas
derrière,
si bien.
Ouais. Donc c'est vrai que du coup c'est le moment où t'as parce que vous êtes quatre aujourd'hui, je
là
crois,
on est quatre aujourd'hui.
Du coup, c'est le moment où t'as embauché deux personnes, alors?
Bonnie travaille presque depuis toujours avec moi, en fait. Et il a été embauché en 2021, juste après Fabienne. Même fin 2020, je crois. Mmh. Donc, Bonnie, c'est un graphiste. Mmh. Et illustrateur. C'est lui qui a illustré tous les jeux de la gamme Nature. Donc, dernièrement, Dame Nature, Pollen, Naeko. Le prochain jeu, Interaction, là. Et c'est lui qui s'occupe de toute la charte, enfin, tout ce qui est visuel, graphique chez Hopla. Et après, il y a 3 ans, on a embauché Max, en plus, qui accompagne Fabienne dans toute la partie commerciale. Et c'est vrai qu'on a sorti, donc je pense que le jeu d'après, ça devait être RIP en 2023.
Mm-hmm. C'est ça.
Il y a eu le deuxième service.
Deuxième service
la même année que il y a eu 3 cartes Zul en 2022, 3 nouveaux cartes Zul plus deuxième service. Ouais, mais voilà, donc là en 2022, on a sorti une nouvelle série de cartes Zul plus une extension d'un jeu. Donc déjà il y avait pas de vraie nouveauté. Mm. 2023, on a sorti qu'un seul jeu qui est RIP. Qui est un jeu adapté d'une série de BD qu'on avait vraiment adoré. C'est un tout petit jeu qui coûte 13,50€, qui nous coûte extrêmement cher à produire.
Ah oui.
Parce que ça paraît bête, hein, mais nous, dans nos conditions à nous en France, enfin, il y a 2 formats de cartes et ça coûte vraiment une blinde. Et il y a la licence. Il y a la licence à payer pour l'utilisation de la marque auprès de l'éditeur. Donc là, on fait une marge ridicule. Donc c'était vraiment un caprice de faire ce jeu. C'est le seul jeu qui est sorti, qui s'est très très bien vendu dès qu'il est sorti. Les ventes se sont considérablement essoufflées, donc c'était vraiment pas suffisant. Et en 2024...
Juste, excuse-moi, oui. Les droits pour la licence, ça se passe comment ? C'est payé en une fois ou c'est une sorte de droit d'auteur, c'est-à-dire que sur chaque jeu, il y a une partie qui est reversée aux détenteurs de la licence ?
Alors nous, il y a les deux, ce truc.
Il y a les
c'est
deux.
Que nous, on paye, on fait un contrat à l'illustrateur. On fait un contrat, de toute façon, tout le temps, pour tous nos jeux, on fait un contrat à l'illustrateur qui est à peu près le même que le contrat de l'auteur.
Ok.
Pour les licences, donc c'est un pourcentage sur les ventes,
d'accord.
avec une avance qu'on verse à l'éditeur.
D'accord.
Et après, quand tous les ans, il y a un bilan qui est fait avec si les ventes ont dépassé l'avance, on leur verse le delta.
Ouais.
Sinon, on a encore un peu de rab. Et normalement, c'est tout le temps comme ça. Normalement, l'éditeur, la thune qu'on lui verse, il doit verser 50% au créateur, donc les illustrateurs en l'occurrence, c'est 50% pour l'éditeur, pour lui. Et justement, les licences, c'est le genre de points sur lesquels on veut agir parce que ça nous coûte extrêmement cher. On en a pas mal et là on renégocie nos licences actuelles et là on fait plus. Ça fait quelques années qu'on a arrêté de faire depuis RIP. On fait plus de jeux à licence. C'est quelque chose qui nous coûte vraiment chaque année très cher. Donc là on arrête pour le moment en tout cas, ou en tout cas fait comme ça. Donc j'ai commencé à parler avec les éditeurs en leur disant que on a un système qui est le plus vertueux possible. Donc il faut qu'on ait des partenariats les plus vertueux possibles aussi. Donc ceux qui font des partenariats avec nous, il faut qu'ils jouent le jeu aussi. On peut pas avoir le même partenariat qu'avec les autres en n'ayant pas les mêmes coûts de production, pas les mêmes marges, etc. Donc il faut que tout le monde joue le jeu pour que ça fonctionne.
Il faut qu'ils adhèrent quelque part à votre philosophie, qu'ils du coup ils prennent aussi en compte ce surcoût de production.
Faut pas qu'on soit les seuls à payer le coût, surtout que un jeu comme La Marche du Crabe par exemple s'est vendu à plus d'exemplaires que la BD La Marche du Crabe.
Ah oui.
Donc c'est vrai que c'est un peu douloureux de se dire que c'est pas du fait de la licence. Pour le coup, parce que c'est une BD qui n'était pas très connue et quand on est dans cet ordre là je pense qu'il y a plus de gens qui ont découvert la BD grâce au jeu que de gens qui ont découvert le jeu grâce à la BD.
C'est mon cas, effectivement. J'ai découvert la BD grâce au jeu, mais ouais. Très chouette BD.
Ah, elle est géniale. Ouais. C'est la première BD que j'ai voulu adapter en jeu, après Lincoln, puisque Lincoln c'est la et oui, la BD était géniale.
Allez lire La Marche du Crabe.
Oui, allez lire La Marche
et
du Crabe
et jouer à La Marche du Crabe aussi.
Oui.
Donc Naeko, effectivement. Après,
donc Naeko en 2024. Ça, j'étais très content parce que c'était un jeu de moi, tout seul. Et ça faisait quelques années que j'avais pas fait de jeu tout seul, puisque le dernier c'était les cartes Zeul, mais on était trois. On est trois auteurs sur les cartes Zeul. Cosmopolite, on est deux auteurs avec Julien Protière. Naeko en avril 2024 et In Extremis en août 2024. In Extremis un peu douloureux parce que pour nous c'est un très très gros morceau. C'est à peu près le même développement qu'un Cosmopolite. 4 ans vraiment très chargé, très lourd, un jeu extrêmement riche, bourré de science encore une fois, qu'on a estimé très fun, qu'on a vraiment voulu faire sans regret parce qu'on l'a fait tel qu'on a voulu le faire. Mais qui s'est très très bien vendu. Nous ça a été notre meilleure implantation le premier mois.
Ah ouais.
Par contre après ça s'est effondré et il a
meilleure
pas trouvé
est-ce qu'il a bénéficié peut-être du Cosmopolite Effect, non?
Alors peut-être c'est vrai que sur les salons en amont il y avait eu un chouette buzz, il y avait une belle hype en fait, donc mais par contre ça a pas perduré, ça s'est pas transformé dans le temps et c'est vraiment dommage. C'est un jeu qui est vraiment hors format habituel, que ce soit dans la façon de jouer ou dans tout ce qu'il y a dedans, dans le ressenti, la richesse de tous les scénarios, enfin l'approche qu'on a fait de la transition énergétique. On a vraiment voulu un truc con et fun et pas chiant et plombant et moralisateur et non c'est alors ce qui est pas si pire, on en a vendu 6 000 exemplaires, 7 000 exemplaires, mais c'est loin 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 d'être suffisant pour
aujourd'hui. C'est plus assez, effectivement.
Non surtout avec le peu de jeux qu'on sort.
On entend parler plutôt aujourd'hui, si tu fais pas 10 000 par 20 000, ça...
Ouais. Après, nous, c'est un peu différent, parce que comme on est nous-mêmes notre distributeur, on n'a pas les 35% de... Voilà, il y a plein de choses...
T'es peut-être pas effectivement sur les mêmes, calibres.
Et nos jeux durent peut-être dans le temps plus que... Un jeu chez un distributeur qui a à faire un flop les premières semaines d'implantation, il a peu de chances d'avoir une jolie vie après.
Oui.
Nous, on va le garder au catalogue et on va continuer à le porter. Comme on sort très peu de jeux, nos jeux, on les porte... infiniment, c'est-à-dire que là sur le salon, là sur le stand par exemple, il y a des jeux qui ont 10, 12, 13 ans qu'on présente à des boutiques qui sont intéressées, qui les connaissaient pas. Et nous on les a toujours au catalogue et il y a certains jeux qu'on vend très bien à certains endroits, pourtant ils sont c'est des vieilleries qui ne se vendent pas en boutique de jeux spé.
Ouais.
Donc du coup, un jeu Naeko par exemple, on avait foiré la sortie en 2024, en avril 2024, parce que sans doute on a mal communiqué, on s'est reposé sur nos lauriers, enfin tout un tas de raisons de notre faute. Il s'est pas très bien vendu, mauvaise implantation en avril, juin, juillet, août, septembre, ça a fait que descendre en plus. Septembre, on l'a présenté à fond à Vichy aux boutiques, et c'est comme s'il était sorti en septembre. D'accord, en fait, il a fait une, ouais. C'est comme s'il avait fait une implantation en septembre, et septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait que monter. Et voilà, ça c'est des choses qu'on peut se permettre parce qu'on est indépendant et puis parce qu'on sait qu'on sort que quelques jeux, donc
Oui, c'est ce qu'un distributeur classique va fera jamais en fait, quoi.
Ça sera pas il possible.
Va, l'implantation, alors tant pis, il passe au suivant.
C'est ça. Oui, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est un confort, c'est un vrai confort, c'est une vraie force en fait. Je pense la contrainte est aussi une force au final. On en était à 2024, 2025 c'était l'an dernier. Donc en juin, on a ressorti Pollen, qui est un de nos vieux jeux de 2014. Qu'on aimait beaucoup, mais qui ne fonctionnait pas du tout, pour le coup, et on savait qu'il y avait un problème visuel. On le savait, mais on était étonnés parce que. Nous, Pollen nous plaisait beaucoup, le visuel nous plaisait beaucoup, mais on se rend compte très bien que sur un salon, sur toute la gamme nature, c'est le jeu que les joueurs attrapent le moins. Ils vont jamais vers la boîte. Donc c'est bien qu'il y ait un problème et un truc qui marche pas. Du coup, Bonnie a tout redesigné, et c'est très bien parce que le jeu marche à une nouvelle vie. Là depuis juin, alors c'est pas des grosses ventes, mais ça, pour voir que c'est un jeu qui a 12 ans.
Et il y a que l'aspect visuel de la boîte qui a été changé.
On a un peu épuré les règles. Pour 2020, pour voilà, 12 ans après, c'est un jeu qui, pour un petit jeu comme ça, de majorité, c'est un jeu qui avait trop de points de règles. Et je suis content de ça parce que c'est un truc que je crois aimé faire dès le début en fait. Qu'on n'avait pas fait parce qu'avec l'auteur on avait envie que ça reste comme ça, mais voilà,
une version director's cut, comme on va dire.
Ouais, un peu. Et sans nuire du tout en fait au jeu en lui-même, donc pour moi c'est top. Et il est sorti en même temps que Dame Nature de Julien Protière, qui est un jeu de programmation de cartes, un jeu coopératif bien sûr, qui est la réédition de Créo, du coup le premier jeu de Julien Protière, qui a lui pour le coup été vraiment modifié en profondeur pour le rendre à la fois plus simple, plus accessible et à la fois plus charpenté dans toutes les variantes qu'il y a, puisqu'on du coup on a fait 12 variantes pour passer d'un jeu familial, la version de base, à un jeu initié avec les variantes.
Ok.
Et voilà, et en 2025, Osmosis, qui est sorti le 26 septembre, donc qui est notre dernière sortie là, qui a été un très très gros morceau pour nous. Donc c'est un jeu d'Agnès Largeot, illustré par Charlotte Lacroix. C'est une très chouette histoire parce que moi, Agnès, c'est quelqu'un que... Au-delà du fait d'admirer son travail, c'est quelqu'un que humainement j'aime beaucoup, c'est une amie, donc c'était génial avec qui je travaille beaucoup sur des jeux sur commande par exemple, mais j'avais jamais édité de jeu à elle, donc c'était super de travailler avec ça avec elle, et puis c'était super de l'illustrer avec Charlotte Lacroix, qui est une illustratrice encore en études à l'école Émile Coll à Lyon, et qui a fait son stage chez nous en janvier-février, qui a fini son stage à Cannes, et là où on l'a fait jouer au proto d'Osmosis, qu'elle a adoré, et je trouvais que ça faisait une belle histoire de lui faire illustrer le jeu, sachant qu'elle est talentueuse aussi.
Très bien. Tu parlais des jeux sur commande, ça représente quoi à peu près dans votre chiffre d'affaires entre les jeux sur commande et les jeux à votre initiative?
Je sais pas du tout, je saurais pas le mesurer. Oh, c'est pas beaucoup en vrai, hein. On en fait beaucoup, mais ça ne représente pas une grosse partie du chiffre, mais c'est quand même un petit 10-15%, je pense.
Ah, d'accord.
Après, ça dépend des années. Ça se trouve, il y a des années, c'est 30%, et ça se trouve, il y a des années, c'est 10%. Mais,
okay.
C'est quelque chose, par contre, que j'aime beaucoup faire. Ça sort vraiment des sentiers battus, et puis souvent, les gens qui nous demandent, c'est des thématiques, des messages qui nous parlent. Là, il y a 2 ans, on a fait le jeu de la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, donc qui est le premier fournisseur d'énergie verte, producteur d'énergie verte en France, qui a fait ce jeu pour sensibiliser les enfants en fait à la transition énergétique, écologique d'ailleurs, pas que énergétique, la transition écologique en général, avec un cahier des charges monstrueux. Donc c'était un très gros boulot et je suis très content du jeu. Et c'est un jeu que je pense qui pourrait sortir dans le commerce en vrai. Alors il faudrait le retravailler. Et puis surtout, moi, je pourrais pas le sortir parce que dans le jeu, il y avait moins de limites matérielles du fait qu'ils avaient pas de contraintes financières particulières par rapport à l'objet final. Par contre, pour qu'ils sortent dans le commerce, ce format-là pourrait pas sortir. Il y a trop de pions, trop de trucs. Moi, dans mes conditions de fabrication, je pourrais pas. Donc, faudrait le retravailler pour avoir un format matériel qui serait vendable en fait pour pouvoir marger correctement. Mais
Et est-ce que vous avez déjà refusé une commande parce que ça correspondait pas à votre éthique? Je sais pas, une entreprise de production d'électricité par charbon vous demande de faire un jeu pour valoriser cette activité?
Non, on s'est posé des questions déjà. Est-ce qu'on répond à l'appel d'offres ou pas?
Ah, c'est des appels d'offres.
Alors des fois c'est des appels d'offres.
Ah, ok.
Et en vrai, je crois pas qu'on ait eu un seul projet qui a marché à Capelle d'Or. À chaque fois, ça a été des demandes.
D'accord, oui, vous n'avez pas été retenu.
Ou des structures, des agences de com ou quoi, qui, elles, répondent à une appel d'offres, mais qui nous demandent en prestataire.
Qui vous sous-traitent.
Voilà, ouais, ça c'est fréquent par contre. On s'est posé la question pour des structures comme Veolia par exemple, qui nous avait demandé. Au final, ça ne s'est pas fait. Mais par contre, on s'était posé la question, c'est-à-dire qu'on se renseigne vraiment sur c'est quoi cette entreprise ? Est-ce que c'est sain, pas sain, quel intérêt, etc. Voilà. Mais dire non, c'est dire aussi non à beaucoup d'argent qui permettent de produire des jeux de façon vertueuse, d'avoir une démarche vertueuse à côté. C'est vrai que mon totalitarisme fait que j'ai pas ce confort. J'aime bien toujours cette histoire en 2014, je crois, en 2015 ou 2016, quand il y a Hop le jeton qui est sorti, qui est une de nos pires ventes ever. Pourtant, c'est un jeu que j'adore complètement, vraiment, je suis ultra fan. Et quand on l'avait présenté à Essen, juste après Essen, il y a Hasbro qui l'avait vu à Essen en fait. Et juste après Essen, Hasbro me demande la licence pour le marché mondial. Et là, je me dis waouh.
Rien que ça.
Ah ouais.
Mon petit Hop-le-Jeton, quoi. C'est-à-dire ma pire vente en France en fait, c'est le jeu
Hasbro veut.
Et donc je leur dis non, parce que moi je veux que ce soit dans les conditions comme ça, machin. Ils disent ah ouais, mais pour le marché asiatique et pour le marché américain, on peut le fabriquer dans les usines qui sont dans les deux pays, machin. Ils commencent à m'envoyer leur certificat comme quoi ils ont les usines sont green machin, les labels et trucs, ils replantent des arbres pour tant de jeux vendus et tout, que ils me font signer un NDA pour pas que voilà, et au final non, parce qu'en fait déjà c'est vraiment du greenwashing mais dans tous les sens là. Pour le coup, c'était j'avais l'impression de me transformer en gros pot de peinture verte et ça colle et j'aime pas ça. Donc ça a été le premier nom qui fait poser des questions, parce que pour le coup ça mettait l'entreprise à l'abri plusieurs années financièrement.
Oui, carrément.
Donc ce genre de ce premier nom a posé beaucoup de questions. Depuis, dire non c'est plus une force qu'un questionnement, mais néanmoins selon les entreprises on se pose régulièrement des questions. Mais même
c'est plus l'entreprise qui va déterminer le fait que vous vous posez des questions plus que le fond du jeu qu'on vous demande de fabriquer.
Ouais, les deux vont avec.
Normalement, ouais, ça
je sais pas.
C'est vrai qu'une entreprise. T'as raison.
Tu citais la CNR. La CNR, c'est quand même Engie Suez derrière. Bon, oui, oui. Engie et Veolia, Suez, bon, c'est un petit peu
vrai,
les mêmes copains. Hein.
Non, c'est tout à
et
fait
pourtant,
vrai.
Et pourtant, la CNR.
Oui, okay, c'est tout à fait vrai. Mais c'est au cas par cas. Et c'est. Puis il y a une histoire de feeling aussi. Et, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui m'a fait me pas sentir à l'aise dans mes baskets. J'aurais du mal à. Alors, si, il y a des choses. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Je vais pas le dire ici tout de suite. Mais il y a des choses qui me font me sentir pas à l'aise dans mes baskets. Après, moi, je suis tellement. Mais oui, oui, j'ai des choses qui m'apparaissent transgressives pour moi, en tout cas à mon niveau. J'imagine qu'il n'y a que moi à mon niveau qui m'en rend compte, pour qui ça pèse, mais en tout cas, tout n'est pas si simple.
Ouais, c'est les réalités économiques, hein, comme on disait tout à l'heure.
Bon, je pense que personne de nos auditeurs n'ignore les difficultés que vous avez rencontrées en 2025, en tout cas. Que vous avez annoncé en 2025, je sais pas concrètement quand est-ce que ça s'est concrétisé ces difficultés. Est-ce que tu peux revenir dessus du coup? Donc c'était en août-septembre, je crois, vous avez lancé un peu
oui.
Une sorte d'appel à l'aide, j'ai envie de dire.
Ah ben oui, c'est exactement ça. En fait, ça fait non, c'est pas du jour au lendemain. En fait, ça fait des années. Des années que
on comprend en fait qu'il y a une sorte de bulle qui a éclaté quelque part chez vous.
C'est pas une bulle qui a éclaté, ça s'est délité petit à petit de notre faute. Parce que pour toutes les erreurs que j'ai dit qu'on a fait tout à l'heure, que j'ai dit tout à l'heure qu'on a faites, pas sortir assez de jeux, des jeux sur lesquels on marche pas assez, pas être assez bon malgré tout sur les localisations à l'export, enfin voilà, tout un tas de points comme ça, sur lesquels on agit. Par contre, on avait un trou qui s'était creusé, qui était devenu, la boutique allait fermer, la fin décembre, ça allait être la fin. Et c'est vrai qu'il y en a quand même plusieurs, Julien Protière en tête. Qui me disait mais vas-y putain, on est les gens, ils nous aiment en fait, ils aiment ce qu'on fait, ça donne du sens pour eux, c'est important pour eux, donc je suis sûr que si tu fais un participatif en fait ça marchera, t'es légitime. Et moi je le sentais pas, j'avais pas du tout ce truc là, j'avais l'impression de quémander, de faire l'aumône en fait, et ça me plaisait pas du tout. Et j'ai fini par en parlant à beaucoup autour, par céder, parce que tout le monde globalement me dit mais si faut y aller en fait. Et j'ai passé tout l'été, donc la décision a été prise au flip l'an dernier d'y aller. Ça a été compliqué pour moi. J'ai passé tout l'été à rédiger la vidéo, à écrire le texte d'une vidéo, donc pour annoncer la situation. Donc une vidéo de pré-campagne qu'on a postée à peu près un mois avant la campagne.
le 26 août 2025. Et je l'ai posté la main tremblante avant d'appuyer sur entrée. Hein, c'était ou cliquer sur la souris, mais c'était j'ai reculé au max en fait. Puis je l'ai fait globalement tout seul. J'avais pas envie que les autres la voient. J'avais estimé qu'elle allait durer tant de temps. Tout l'équipe disait ouais, mais c'est vraiment long quand même. 8 minutes et quelques. C'est pas du tout le format habituel. Mais en fait, je voyais pas comment faire autrement. Je voulais que ça. Enfin, il fallait ce temps-là pour expliquer les choses. Mais encore, j'ai l'impression d'être assez concis. Et du coup, je l'ai balancé cette vidéo. Et là, ça a été dingue. Ça a été, une avalanche. En 48 heures, elle a fait 150 000 vues. Entre Insta et Facebook. Et YouTube, un peu. Et des partages dans tous les sens. Alors, je sais plus combien, mais je crois que c'est 1500 partages. Et des commentaires dans tous les sens, leur téléphone n'arrêtait pas de sonner. Enfin, le truc, tu te dis, waouh. En fait, on fait que des jeux. Hein. Déjà, c'est comme le truc, tu te dis, c'est pas, ça va sauver personne. En fait, demain, si on n'est plus là, moi, je serai chagriné, beaucoup quand même. quelques-uns autour de moi aussi, mais l'humanité s'en portera pas plus mal. En fait, ça changera rien. Et en fait, c'était pas notre projet que les gens ont défendu, c'est le leur en fait. On s'est rendu compte qu'ils se sont approprié le truc, ils avaient besoin d'électrochoc en fait pour leur propre vie à chacun et leur propre façon de voir les choses. En l'occurrence, dans le monde du jeu, puisque il est question de jeu avec nous. Et du coup, la campagne a été lancée le 22 septembre, je crois, de mémoire. 4 jours avant la sortie de Cosmopolite, qui était le 26 septembre, donc c'était un gros morceau. Hein,
d'Osmosis.
J'ai dit Cosmopolite, pardon, ouais, d'Osmosis. Donc les deux se sont chevauchés. Je voulais pas parce que j'avais l'impression que ça faisait beaucoup d'un coup. Mais sans doute que les deux se sont portés mutuellement. Parce que la campagne a fait une super com pour nous. La sortie d'Osmosis a fait de la com pour la campagne aussi. Enfin, il y a eu une espèce d'ensemble plutôt win-win, comme on dit.
C'était aussi une manière de soutenir du coup le jeu au plat que d'acheter Osmosis.
Oui, et en plus c'est un jeu qui a eu une super presse en fait, qui a eu une jolie hype. On l'avait vu à Cannes déjà quand on a commencé à le montrer l'an dernier, Cannes 2025. À Vichy, il a vraiment cartonné. Ça a vraiment hyper bien marché. Et tous les retours critiques des influenceurs ont été excellents. Les retours critiques des joueurs sont excellents. Et ce que je comprends, parce que c'est un jeu qui est vraiment excellent, en n'étant pas l'auteur, c'est plus facile pour moi de le dire, mais c'est un jeu, moi j'ai eu un coup de cœur absolu, et ça, avec un vrai ressenti de jeu particulier, et d'ailleurs là pour le coup il continue de bien se vendre, donc il nous fait du bien. Donc l'un dans l'autre, donc déjà la campagne a duré 2 mois, bien reposant.
Alors c'est une campagne dans laquelle vous cherchiez à récolter 87 000 euros.
Ouais.
C'est précis.
C'était le déficit du dernier bilan.
Ok.
Donc ça avait pas de sens parce que c'était pas ce qu'il nous fallait à l'instant T de la campagne, sachant que ce qu'il nous faut à un instant T, ça fluctue tous les jours en fait. Entre les factures qu'on paye et les factures qu'on reçoit.
Oui, bien sûr.
Il suffit qu'on fasse une production qui coûte 30 000 balles, d'un seul coup ce qu'il nous faut, ça explose. Donc voilà, je me suis basé sur le déficit de l'année d'avant, du bilan d'avant, et c'était 87 000 euros. Et on est arrivé à 69 000, je crois, presque 70 000 en tout cas, ce qui était monstrueux. C'était énorme. En fait, je ne pensais jamais. Moi, j'y croyais moyennement. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais globalement, j'y croyais moyennement. Je crois que Julien Protière, lui, il disait, mais si, je suis sûr qu'on peut arriver à 30 000 euros, peut-être 40 000, enfin voilà. Mais c'est-à-dire 70 000 euros, quoi.
Oui, parce qu'il y avait des contreparties ou pas?
Oui, alors il y avait les deux. Il y avait soit le don libre, soit des contreparties. Par contre, dans les contreparties, on n'a pas mis de jeu. Parce qu'on voulait pas que quelqu'un qui prenne un jeu par contrepartie soit un jeu qu'il achète pas en boutique. Ça, c'était hors de question. Donc, dans les contreparties, on a eu la chance que les illustrateurs soient hyper sympas et fassent des illustrations. Donc, on a vendu des illustrations originales. On a vendu qu'on a décliné en tirées à part, signées, numérotées. Et des goodies, on a fait des packs de goodies avec tous les goodies qui nous restaient depuis 15 ans, plus des trucs qui ont été récupérés, plus des cadeaux, alors qui n'ont pas été dans les contreparties, mais plus dans des, on a fait plein de paliers de dépassement en fait. Tous les 2500 euros, on faisait un palier de dépassement et avec des concours, des trucs à gagner. Et en fait, on a eu plein de dons, même d'autres éditeurs en fait. Incroyable, Alain Ballet de Blue Cocker par exemple, qui a filé plein de Rest in Peace qu'on a fait gagner en cadeau à tirage au sort. Johan de Subverti qui a filé des mix art. Enfin voilà, il y a eu plein de il y a eu Nicolas Bourgoin de Banana Smile aussi qui a filé plein de jeux, plein de push 'em up et d'Icicle Race.
D'accord, donc une solidarité entre les acteurs du jeu.
Ça a été dingue. Alors, une solidarité entre les éditeurs, une solidarité avec les autres éditeurs, pardon. Les cafés-jeux ont mis en place plein de, d'initiatives pour récolter des sous pour nous. Les boutiques ont fait pareil des initiatives pour récolter des sous pour nous, ont donné des cadeaux pour les paliers de dépassement. Vraiment l'ensemble de la communauté, il y a eu Thomas Planète par exemple qui a fait des jetons collecteurs la marche du crabe donc on a mis dans les contreparties hyper beau. Et ça a été alors dur à gérer au final parce que ça venait de tous les sens
et beaucoup de logistique.
Voilà, c'est ça, il a fallu gérer tout ça. Alors la logistique pure pour la fin, alors du coup le temps a passé, c'était beaucoup de boulot. On a fait les contreparties il y a deux semaines là. On s'est retrouvé pour faire les 574 colis. En tout, il y a eu 1008 ou 1080 dons, enfin
participation
backer. Et 574 colis à faire. Donc on les a tous fait la semaine dernière, il y a deux semaines, et on a la chance qu'un partenaire, je sais pas encore s'il veut qu'on le cite, donc je vais pas le citer. En tout cas, il y a un partenaire logistique qui nous a dit, écoute Florent, ce que dès que j'ai balancé la vidéo en fait, il a appelé, il a dit, écoute, enfin on a tous discuté, ce que vous faites, c'est il faut que ça dure, il faut que ça continue, nous on y tient, donc on prend en charge toute votre logistique d'envoi. Et donc on a un partenaire logistique qui est en charge bénévole, enfin gratuitement pour nous, de l'envoi de 574 colis, ce qui est quand même, enfin voilà.
C'est pas une paille.
Ah ben non, ce genre de d'aide, de participation, c'est monstrueux. Enfin oui. Moi j'étais quand t'entends ça en fait, tu dis mais waouh,
mais oui.
c'est dingue, c'est complètement dingue en fait. C'est offrir des milliers d'euros, du temps, de donc ça a été. Et puis je parle pas bien sûr de tous les copains graphistes machin qui ont aidé, des graphistes, je pense à Kader que je ne connaissais pas, qui a filé un coup de main, qui a fait des emojis, enfin des trucs, hein, qui a fait le logo de la campagne Vers l'infini les jeux au plat. C'était dingue. Donc ça fait du bien de se sentir aimé. C'est compliqué parce que je me sens extrêmement redevable. Ça, c'est vraiment dur en fait. En vrai, je me dis qu'il faut être à la hauteur. En fait, je me rends compte qu'on est aimé. Et ben, il faut qu'on soit à la hauteur en fait. Il faut qu'en retour, on.
Et quelles sont les modifications qui ont été faites chez Jeux au Plat de structure pour que ça ne se reproduise plus justement?
Alors déjà, c'est économiser. Donc c'est moins dépenser là où on peut moins dépenser. Ça va être très con, ça va être ne plus aller au resto quand on est à Cannes. Donc ça s'est terminé depuis quelques années. Ça va être faire gaffe au forfait téléphone, aller au moins cher. Ça va être faire gaffe à tout, voilà. Le moindre bout d'économie de bout de chandelle, on le fait. Ça va être aussi sur des frais beaucoup plus gros. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, les licences par exemple, on renégocie, sachant que les licences c'est vraiment pas mal de dizaines de milliers d'euros chaque année. Donc on renégocie et puis on fait plus de jeux avec des nouvelles licences. C'est ne plus faire de caprices éditoriaux comme un RIP par exemple, ou un Plabi en son temps, qui nous coûte extrêmement cher à produire, sur lesquels on marche très très peu. Donc maintenant je fais extrêmement attention aux marges des jeux. Ça va être faire attention de bien avoir 2 ou 3 jeux par an, de pas avoir d'année comme en 2024 ou en 2023 où on n'a qu'un seul jeu. Ça va être développé plus, alors ça va être C, puisque ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est sur tous ces points là travailler l'export, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas nombreux, c'est dur à le faire, mais on essaye d'aller de plus en plus malgré tout. Voilà, ça reste du bonus qui peut être important. Et c'est là, c'est Fabien et Max qui font un travail incroyable, c'est plus et mieux prospecter en fait. C'est placer nos jeux, les vendre correctement dans des endroits où on n'est pas forcément et qui nous correspondent surtout.
Okay.
Donc ouvrir le plus de comptes possible et pérenniser les ventes. On se rend compte qu'on est assez efficace, qui sont assez efficaces sur les ventes par exemple de la gamme des Hop la Bille, Hop la Puce, Hop le Jeton, la gamme alors les Cardzel dans certains endroits comme des musées ou des concept stores. C'est des endroits qui augmentent d'année en année. Alors ça reste des petits volumes, mais finalement chaque année ils augmentent. Donc, et c'est des choses qui sont pérennes, c'est-à-dire que c'est des endroits qui se contrefoutent de l'effet de nouveauté. C'est-à-dire que si le jeu a 6 mois ou qu'il est 12 ou 13 ans, pour eux c'est pareil. C'est juste un jeu dont le message leur parle et correspond à ce qu'ils font, donc ils vont le vendre de façon pérenne. Et pour nous c'est hyper stable et ça c'est important. Donc voilà, c'est tout ce genre de points sur lesquels on agit qui payent. Parce qu'on se rend compte que
tu sens déjà que ça.
Oui, ouais,
par contre, des effets.
Par contre ça ne rattrape pas le retard. Donc la campagne et Osmosis ont fait que les 4 derniers mois de l'année ont été bons. Ouais. On a mieux vendu. On a fait 4 bons mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Faut que ça dure, ça c'est compliqué. On n'a pas complètement rattrapé notre retard, donc on a encore des dettes. puisque du coup la campagne et Osmosis ont fait que on a pu relancer des prods de jeux qui étaient en rupture.
Okay.
Sauf que ces prods là faut les payer, mais elles sont en vrai là, presque toutes les prods qui ont été faites ont été payées. Il reste encore, mais dans un mois normalement ça devrait être tout réglé. Après il y aura d'autres prods puisqu'il y a d'autres jeux qui arrivent bientôt, et puis il va y avoir des retirages. Il va falloir assez vite qu'on retire Osmosis, mais on est plutôt optimiste, mais malgré tout le poids est toujours là. Tant que l'affaire est pas réglée complètement, ça reste compliqué, mais j'y crois. C'est lourd, mais j'ai pas du tout fait le tour de ce que je veux faire. J'ai pas raconté tous les jeux que je veux raconter encore,
on devrait encore pouvoir compter sur toi dans les années à venir dans le paysage ludique.
J'y compte fortement, parce que j'ai encore beaucoup. Enfin, c'est un média qui me touche, qui me plaît, qui me parle, qui me porte, et j'aimerais bien que ce que on fait plaise, parle et porte aux joueurs aussi. Après, le milieu est ce qu'il est, c'est que maintenant, on achète sur Amazon, on achète en GSS, on achète.
Pas nous.
Globalement. Et on achète des jeux qui sont un certain type de jeu. Enfin, on voit que le monde, de façon générale, se polarise, que ce soit dans les idéaux politiques ou dans les façons de vivre, on le vit dans le monde du jeu. C'est-à-dire qu'on voit clairement certains jeux qui se vendent à des volumes phénoménaux tels qu'on l'a jamais vu, et la plupart des jeux qui font des flops. Et l'espèce de ventre mou, l'espèce de moyenasse qu'il y avait avant, dans lequel la plupart des jeux se situaient, mais qui était pas mal finalement. Il existe de moins en moins. C'est un peu calqué sur la classe moyenne qui existe de moins en moins, alors qu'il y a de plus en plus de pauvres de plus en plus de hyper riches aussi. C'est cette hyper polarisation du monde qui me déplaît fortement et qu'on retrouve dans tous les domaines. C'est dans le jeu comme dans partout. Hein. La BD a vécu ça il y a quelques années. On a tendance à dire que le jeu c'est un peu la BD avec 10-15 ans de retard, mais c'est un peu ça en fait. Hein. Ouais. La musique, le cinéma, bien qu'on est à France, on a un système de financement du cinéma qui est particulier, mais le commerce va clairement mal en ce moment. Donc c'est vrai que nous, comme les boutiques SP, c'est notre premier moyen de vente. On les chérit en fait. Ils font un travail extraordinaire. C'est les meilleurs humains du monde en fait.
Bon, on espère te revoir au Microproxy Jeux en 2028. C'est tous les 4 ans, c'est ça, hein?
Dans 6 ans, du coup.
Ah, c'est 6 ans. C'était 2020, la dernière.
C'était 6 ans. Ouais.
Voilà, mais c'est long.
Oui, on est en 2026.
Rappelez-moi.
Ça sera peut-être avant.
Mais oui, rappelez-moi avant.
En tout cas, merci beaucoup, Florent.
Ouais, merci à vous. Merci.
Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.
Votre attention s'il vous plaît, nous informons que le jeu Behind n'est plus disponible à la boutique officielle au moins un. Nous vous invitons à vous rendre à la boutique extérieure.